nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Paolo Legranzi, vous êtes professeur de psychologie cognitive à l'Université de Venise, à l'Institut des sciences, lettres et arts de Venise. Vous avez déjà une longue carrière derrière vous, axée essentiellement sur la psychologie cognitive. À l'origine, la philosophie et la psychologie vous ont passionné et vous avez été professeur invité dans plusieurs centres de recherche à l'Université de Leyde, de Genève, de Princeton, d'Aix-en-Provence, de Saint-Denis. Vos recherches concernent essentiellement, je le disais, la psychologie cognitive appliquée. Alors, penser et communiquer, comment fonctionne notre cerveau, c'est l'objet de vos recherches. Ce qui vous intéresse, c'est comment notre pensée, comment nos raisonnements se mettent en place. Alors, l'un de vos ouvrages peut-être le plus connu, Comment funziona la mente, excusez-moi pour cet italien déplorable, a été traduit en plusieurs langues. Vous êtes l'auteur de dizaines de livres sur la psychologie de la pensée, sur l'histoire de la psychologie. Et en français, les Français peuvent disposer donc d'un ouvrage qui s'appelle Le Bonheur dans la collection Comprendre chez Première Édition, qui est un petit livre. J'espère qu'on reviendra dessus dans une interview ultérieure par téléphone. Ça serait un moment, disons, sympathique. Là, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est le prix Claude Lévi-Strauss qui a été décerné à Paris en juin dernier. Vous étiez Paolo Legranzi, membre de ce jury, président avec Raymond Boudon, qui est sociologue et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et pour la première fois en France, est décerné un prix valorisant de 100 000 euros décerné à un chercheur en sciences humaines. Donc cette année, le prix Claude Lévi-Strauss a récompensé Dan Sperber, qui est un Français travaillant en France. Et dans ses remerciements, Dan Sperber a rappelé combien il était lié en fait d'abord à Lévi-Strauss, mais aussi à l'œuvre de Lévi-Strauss. Qu'en tant qu'étudiant, il avait suivi ses cours, etc. Il a rappelé qu'il avait suivi son séminaire, qu'il avait été invité à parler devant le maître en séminaire du premier essai qu'il avait écrit, Le structuralisme en anthropologie, qui était publié en 1968. Alors c'est tout ça, c'est il y a très longtemps, c'était il y a 50 ans. Paolo Legranzi, quelle filiation intellectuelle voyez-vous entre Dan Sperber et Claude Lévi-Strauss?
Alors disons que l'anthropologie conçue comme une étude de culture, aussi au point de vue de l'intuition générale d'une personne cultivée, vous avez l'idée que les cultures sont toutes différentes, une idée disons relativiste à soi-même, et que pour comprendre une culture, pas seulement une culture d'une certaine population, différente de nous, vous devez connaître l'histoire, comme ça. De ce point de vue, les cultures ne sont pas comparables, semblables les unes et les autres. Ce qui va lier la tradition de l'anthropologie cognitive d'aujourd'hui, à laquelle Dan Sperber appartient, et le travail d'un grand étudiant, un pionnier de la discipline, comme Lévi-Strauss, c'est l'idée qu'il y a des structures, c'est-à-dire qu'il y a des choses invariantes, qui ne changent pas, entre différentes cultures, et cet mécanisme, vous pouvez étudier cet mécanisme, que chez Lévi-Strauss était aussi le mécanisme de la parentèle, comme ça, et avec cet filtre, avec cet schéma de comparaison des différentes cultures, vous pouvez faire un travail aussi de comparaison. Chez Dan Sperber, après qu'il est une autre génération, il y a aussi l'idée de la diffusion d'un modèle, disons, à peu près semblable à la tradition darwinienne, une idée de la culture comme un ensemble de représentations. Il y a des représentations qui sont plus faciles à communiquer des autres, et cette représentation sont les représentations qui vont être plus connues, qui s'attachent mieux à la tête des personnes, qui sont plus facilement communiquées, comme ça.
Alors, Dan Sperberg s'est formé à Oxford, où il a rencontré deux penseurs importants qui s'appellent Godfrey Linhart et Rodney Needham. Est-ce que vous pourriez nous présenter ces penseurs? Parce que l'anthropologie, justement, c'est un petit peu la benjamine des disciplines des sciences humaines. Et pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous les situer, disons, ces deux penseurs qui ont visiblement formé ou été importants pour Dan Sperberg?
Disons que l'anthropologie dans cette tradition britannique, anglaise, à l'origine, c'était former des outils, former des instruments, former des cadres culturels pour comprendre les cultures très différentes des Anglais. C'était la grande période de l'impérialisme britannique. Alors, eux, ils se posaient la question de comment on pouvait faire le colonialisme sans comprendre les peuples colonisés. Celle-ci, c'était... Et l'anthropologie, elle est née dans ce cadre, un cadre anglo-saxon. Dan Sperberg, il a étudié là-bas, il est de ma génération, il a étudié dans un moment dans lequel il y a eu un grand virage, un grand changement, c'est-à-dire que l'anthropologie est devenue un morceau des sciences cognitives, qui à ce temps-là naissait. Et alors, un morceau d'une chose qui alliait Chomsky, c'est-à-dire des structures de Chomsky, disons, le grand changement de Lévi-Strauss à Dan Sperber et à l'anthropologie cognitive, aux sciences cognitives, c'est l'idée du contrôle, l'idée de l'expérimentation, l'idée de méthodes différentes utilisées dans tout ce milieu dans lequel vous ne faites pas plus cette différence. Au contraire, quand est née l'anthropologie, dans le sens britannique, il y a un siècle, les sciences humaines étaient différentes et l'anthropologie, c'était une dimension plus culturelle, disons, des comparaisons et des confrontations, des relations, des cultures avec une méthode plus historique.
En fait, là, vous nous situez, Dan Sperber, aussi par rapport à la révolution cognitive des années 60. Donc lui, il est jeune chercheur, il démarre, si on peut dire, son œuvre à ce moment-là, dans ce grand virage auquel que vous venez de nous présenter.
Sans doute, en effet, l'originalité de Dan Sperber est la raison pour laquelle il est connu pas seulement par les anthropologues, mais il est connu dans le monde par les linguistiques, par les philosophes d'intelligence, pour toutes par la linguistique. Son originalité, c'est d'avoir lier cette tradition d'études de culture, de population sur le terrain, liée à la grande révolution cognitiviste dans laquelle tout ce barrage allait disparaître et on étudiait la tête des personnes et comme le contenu du tête des personnes pouvait interagir avec les autres personnes nella diffusion de culture comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui, il a cette tradition de l'anthropologie. Il a placé dans ses œuvres sur le symbolisme, sur la diffusion des représentations, sur l'épidémiologie, lui il appelle des représentations. Il a placé cette tradition dans ce cadre que, quand il était jeune, que maintenant il est devenu un cadre de référence connu dans tout le monde, mais quand il était jeune à Oxford, comme ça, c'était un cadre qui allait naître, qui si déclenchait, parce que aussi la psychologie c'était différente, il avait la tradition comportamentiste, c'est tout à fait différente. Et ça a été fait dans différentes disciplines, prenons Chomsky, la linguistique. La mérite de Sperber, c'est justement d'avoir fait ce lien avec la tradition dell'anthropologie, comme il y avait un très grand anthropologue à la France qui était Lévi-Strauss, que dans mon génération, quand j'avais la même âge, j'étais allé à Londres étudier pas Oxford, mais de Sperber, il était déjà conçu comme un géant. Maintenant, c'est un monument national français, mais à ce temps-là, il était déjà connu dans tout le monde.
Et pour vous, justement, Paolo Legrenzi, qui est un spécialiste en psychologie cognitive, l'œuvre de Lévi-Strauss, qu'est-ce que vous lui devez? Quel lien, justement, vous ont marqué dans votre discipline, qui sont des disciplines qui sont en lien, toutes ces cinq disciplines-là?
L'œuvre de Lévi-Strauss, c'est très important, tout à fait lié, dans une façon très générale, aux œuvres d'un autre grand chercheur, professeur de tradition française, comme il était suisse française, qui est Jean Piaget. L'idée, c'est-à-dire que pas dans la culture, mais dans la personne singulière, dans le bébé, l'enfant qui est né jusqu'à son âge d'adolescent, il y a des structures invariantes de l'intelligence que vous pouvez décrire comme des opérations. Alors, les deux choses sont liées d'une certaine façon. Ce sont deux géants. Lévi-Strauss d'un côté et Jean Piaget de l'autre, dans lesquels, dans la tradition de cette démarche de recherche, il y a l'idée qu'on peut étudier cette invariante, des choses invariantes qui sont une espèce de schéma manteau que vous pouvez trouver avec l'observation, la expérimentation, Jean Piaget, et avec la comparaison, les observations naturelles sur le terrain, dans la tradition de Lévi-Strauss.
En quoi Dan Sperber est-il sorti des sentiers battus justement dans le domaine de l'anthropologie? Parce qu'il est surtout sur le terrain de la théorie.
Le grand changement qu'a fait Dan Sperber, c'est aller dans la tête des personnes, avec la notion de pertinence. Lui, il prend une idée qui, déjà, une autre chercheur américaine, Grice, avait vue, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont plus pertinentes aux autres. Il n'y a pas seulement les règles de la structure syntactique, pour parler entre nous. Il y a aussi des règles, qui nous pouvons dire des règles comme d'étiquette, des règles de bonne éducation, et cette règle rend certaines communications plus pertinentes des autres. Il y a des règles entre nous dans ces dialogues comme ça, qui ne sont pas les règles de la langue, sont les règles de la communication. Qu'est-ce qu'il a fait Dan Sperber? Il a justement fait un travail de comprendre en détail qu'est-ce que veut dire une communication pertinente. Qu'est-ce que veut dire ça? La notion anglaise de relevance, qui en France est pertinence. No? Qu'est-ce que veut dire ça? Et il a fait une étude très détaillée, qui est une étude à cheval entre la psychologie cognitive, disons, et la linguistique, à point de vue de la communication humaine, pas des cultures, des personnes singulières, des individus. Après, il a cherché aussi de faire un pont entre ce qui arrive entre les individus et ce qui arrive au point de vue collectif, un lien entre l'individuel et le collectif. Et ça, c'est son originalité, l'idée d'épidémiologie, l'idée de la transmission des idées dans une culture liée au même mécanisme qu'on peut voir dans la côté individuel et dans la côté intellectif. Et c'est la raison pour laquelle il est connu par les linguistiques pour cet aspect, par les psychologues cognitifs pour l'autre aspect. Il a lié des différents domaines. Ça, c'est vraiment son originalité.
Donc, c'est les deux ouvrages qu'il a écrits, La pertinence et puis La contagion des idées. C'est ça, hein, ce sont les deux grands livres.
Les deux ouvrages plus connus dans le monde, traduits dans beaucoup de langues et qui ont fait connaître Dan Sperber comme chercheur.
Parmi les concepts là, dont on vient rapidement de parler, il y en a d'autres, cette pertinence des idées et cette façon de filtrer l'information. Enfin bon, bref, je ne sais pas le dire moi, mais ce sont des théories. Est-ce que ces théories, elles ne sont pas remises en cause pour l'instant? Elles s'imposent dans le paysage des sciences humaines, là, font l'unanimité, elles sont l'objet de controverses ou pas?
Cette théorie, quand vous l'appliquez en détail à compétences humaines, ça devient aussi, se traduisent dans des idées plus expérimentales, disons. Mon domaine, c'est la psychologie de la décision, du raisonnement, de la pensée, mon domaine de recherche personnelle. Lui, par exemple, Dan Sperber, il a étudié des structures de la pensée, très étudiées dans mon domaine, et il a donné une contribution au point de vue de son théorie de la relevance. Évidemment, c'est un aspect particulier dans ces différents domaines, et c'est un aspect sur lequel des autres ont travaillé dans une façon détaillée, de la même manière, à la mesure que si vous allez dedans chaque domaine particulier, le point de vue d'un Sperber peut être détaillé mieux, critiqué, analysé. Je pense que son mérite, c'est celui-ci, la contribution spécifique, spécialiste, mais aussi les grands cadres. Une chose semblable, à ce point de vue, c'est semblable au rôle qui a joué dans ma génération, quand j'étais jeune, disons, les grands changements déclenchés par Lévi-Strauss. Cet nouveau cadre. Ce n'est pas seulement son mérite, parce que ce cadre nouveau va se passer dans la grande révolution cognitiviste, disons. Mais lui, il a donné à cette grande révolution cognitiviste, qui maintenant il est âgé, parce qu'il a commencé il y a 30-40 ans, la contribution, sans lui, l'anthropologie cognitive, que maintenant il a étudié dans beaucoup d'autres coins dans le monde, des amis d'Hans Sperber, il a enseigné à Princeton, il a enseigné à Michigan, il a enseigné dans les universités américaines, il y a des autres anthropologues cognitifs comme lui qui vont continuer son travail. Lui, il a eu premier cette idée e lei ha donné une contribution dans les grands horizons, dans les grands cadres de la révolution cognitiviste. Et sans doute, il a une place, et je pense que c'était très bien choisi pour la première occasion du prix Lévi-Strauss à la France, sa figure. Pas seulement comme chercheur, mais pour le rôle qu'il a joué dans cette tradition. En tout cas, c'est un prix pour toutes les sciences humaines, hein. Pas seulement l'anthropologie, hein, disons. Le prix, c'est un prix qui va être donné à un étudiant des sciences de l'homme dans chaque domaine, l'économie, la linguistique, c'est ça, c'est le prix. Étudiant, un chercheur, un professeur qui est connu au niveau international, qui a fait un travail interdisciplinaire. Mais en tout cas, comme il s'appelle prix Lévi-Strauss, je pense que la figure d'Hans Weber, pour la première année, parce que c'est prix. À la France, il n'y a pas de prix comme ça. Hein. C'est un grand mérite d'avoir, par la ministre française, avoir fait un prix français dans ce domaine, disons, semblable au Nobel, comme ça, parce qu'en France n'existe rien de ça. Comme ça, je pense que très bien, pas seulement l'occasion de Lévi-Strauss qui est devenu centenaire, mais aussi pour les sciences humaines françaises, la grande tradition des sciences humaines françaises, une très bonne idée.
Les sciences humaines en France sont un petit peu à l'écart au niveau des financements de la recherche, sont un peu les parents pauvres de la recherche. Est-ce qu'en Italie, c'est la même chose? Est-ce qu'en Europe, c'est la même chose? Vous êtes à Venise, justement, au cœur de ces décisions pour orienter telle recherche. De quoi souffrent les sciences humaines aujourd'hui? Même si vous êtes en Italie, peut-être que les choses sont semblables, vous allez nous dire. Est-ce que les sciences humaines souffrent davantage que les autres, justement, pour, dans les moyens qu'on leur offre?
Bon, je pense que je pourrais répondre dans cette manière. Imaginons, comme dans les lettres persanes de Montesquieu, qu'il arrive, monsieur, au lieu, pas dans la Perse, comme les persanes de Montesquieu, mais il arrive de notre planète. Viens visiter l'Europe, l'Amérique, le panorama du science. Dans une perspective très générale, la France et surtout l'Italie, dans les siècles passés, ils ont donné une grande contribution dans les sciences de la nature. La grande tradition italienne, c'est la mathématique et surtout la physique, physique théorique et physique appliquée. L'étude de la matière, sans doute, si vous prenez une perspective lettre persane, c'est-à-dire très loin, la grande contribution de l'Italie a été avant la physique et après aussi la biologie, moins que les Français. Les Français sont plus forts en biologie. Les Français, ils ont changé le panorama de la biologie dans beaucoup de domaines, les traditions de Pasteur, vous connaissez, non? Alors, c'est évident que si vous prenez une perspective très loin, les sciences humaines dans ce pays, dans la France et aussi dans l'Italie, sont moins importantes que les sciences de la nature. Avant la physique, c'est-à-dire la matière, les particelles petites de matière, disons, la physique atomique, à l'Italie surtout, et après la biologie, le monde du vivant, dans lequel la France a plus tradition d'Italie. Nous avons aussi, on doit dire, un monument vivant semblable qui est une femme qui a étudié le cerveau, qui était en Amérique, comme ça. Mais en tout cas, d'un point de vue très, très... Après, je vous le dirai. Un point de vue très loin, disons, les sciences humaines dans les derniers 10 siècles, en comparaison à l'Amérique et l'Angleterre, dans ces pays, sont moins importants. Elle est très connue en Italie, s'appelle Levi Montalcini, une Italienne che, come il y avait la persecution juive, semblable aux parents de Hans Weber, entre guillemets, c'est-à-dire ils étaient placés aux États-Unis, Levi Montalcini, et elle a étudié le cerveau, disons, la cellule, le prix Nobel. C'est-à-dire, elle a 100 ans, comme ça, vous pouvez faire un parallèle comme avec la figure de Lévi-Strauss dans le panorama italien. Mais elle est un peu une exception, disons, nous sommes bien dans la biologie, mais pas comme les Français, et surtout pas comme les Anglais. Disons, le panorama qui a changé dans le monde, dans la biologie, a été un panorama plus anglo-saxon que non méditerranéen comme en France et Italie. Au contraire, si vous prenez les sciences de la physique, les sciences de la nature, les sciences de la matière très petite, subatomiques, le CERN, toutes ces traditions italiennes et françaises. Alors, dans tout ce panorama, c'est très grand, si vous regardez l'Italie et la France de très loin, les sciences de l'homme sont plus faibles.
Donc c'est à peu près la même chose. Est-ce que le cloisonnement entre les disciplines en sciences humaines, est-ce qu'il est aussi fort en Italie qu'en France ?
Disons que l'architecture de l'organisation de l'Université de recherche italienne ne va pas favoriser l'échange, hein, parce que nous, on a une tradition très foncée avec, c'est une chose affreuse, par exemple, l'Université italienne, il y a des regroupements, des rassemblements, mais très spécifiques, dans lesquels, quand il y a une nouvelle discipline qui est à cheval entre deux disciplines de deux rassemblements, disons ma discipline, pour faire un exemple plus personnel. Moi, je te dis une chose qui est à cheval, entre, un peu semblable à Boudon, mais d'une façon expérimentale, entre l'économie, la sociologie et la psychologie, c'est-à-dire la rationalité des actions humaines. Vous pouvez étudier ça dans la vie, avec des manips, dans le laboratoire, comme ça. C'est une chose qui n'est pas économie, pas psychologie, disons, et pas sociologie. C'est une... Alors, c'est plus souple la tradition américaine comme ça, neurosciences comme ça. Au contraire, dans l'Italie, il y a le retard qui est causé, que vous devez attribuer à cette tradition affreuse d'avoir eu des disciplines, mais très, très séparées, très spécifiques. Il y en a, pour vous donner une idée, dans l'Université italienne, il y en a plus de 5000, comme ça. Et vous devez... vous placez là-dedans. Ma génération, il n'y avait pas une grande souffrance pour ça, parce que tout, les sciences de l'homme sont commencées, il n'y avait rien à l'Italie avant ma génération. Alors ça, on a dépassé ça. Maintenant, au contraire, ça c'est une façon de retard.
Comment vous avez rencontré Dan Sperber?
Moi, je l'ai rencontré parce qu'une personne plus jeune, très plus jeune, qui travaillait avec moi, disons à l'origine, il avait eu une bourse Fissen, qui est une très belle tradition et organisation qui est là en France, il n'y a pas l'Italie. Il devait étudier là-bas un projet de recherche qui évidemment était semblable, comme il était étudiant à Padoue, où moi j'avais enseigné, semblable à les choses que moi j'ai étudiées. Alors moi je suis allé avec lui, d'abord au CREA, qui c'est un centre de recherche d'épistémologie appliquée, dans lequel il y avait aussi Dan Sperber, qui est justement placé dans le ministère de l'éducation dans lequel maintenant a été s'est déroulé à l'Académie, mais aussi là-bas du prix Lévi-Strauss, in rue Descartes, et je suis resté là-bas quelques mois, il y a 20 ans. Et comme ça, je l'ai connu, après on a eu toujours une relation. Aussi, il était connu en Amérique dans des places où moi je suis allé. Et comme ça, et après, beaucoup d'occasions, on s'est vu, même si en France, vous avez fait une chose très juste qu'en Italie n'est pas faite, de faire un rassemblement pour la psychologie dans la Provence, ex-Marseille. Lui, au contraire, il est à Paris. Mais comme il est à CNRS, il a très voyagé. Comme ça, on s'est vu dans les colloques, partout. Mais à l'origine, c'était justement cette bourse Fissen. Moi, je ne connaissais pas aussi l'existence de bourse Fissen, que c'est cet élève qui a travaillé aussi dans Sperber.
Et quel est le livre qui vous a le plus marqué?
Tout le livre sur la relevance. Comme psychologue de la pensée, que moi je suis, le book...
La pertinence.
Excusez-moi, relevance en anglais. Pertinenza en italiano può dire una cosa pertinente, pertinenza. Ça, c'est le bouquin sans doute le plus important pour ma tradition de recherche, parce que si vous lisez ce livre, vous avez immédiatement des idées, des hypothèses, des choses que vous pouvez manipuler au point de vue expérimental, traduire en manip expérimental, que même Sperber, il a fait lui-même. L'article plus mentionné de Sperber, c'est un article sur une tâche expérimentale de la pensée qu'il a fait avec ce garçon, qui à ce temps-là, il est garçon, maintenant il est professeur à Venise avec moi, qui s'appelle Girotto.
Merci Paolo Legranzi.
Merci à vous, merci pour l'hospitalité à Paris dans cette occasion, à l'Académie et à la radio de l'Académie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.